Bonjour à tous. Tout le monde se porte bien? On va bien par la grâce de Dieu. Alors, si ce n'est pas le cas, bien, on va prier pour vous que le Seigneur vous donne sa paix et sa joie afin que votre santé aille bien. Alors, ce matin, avant de commencer mon message, j'aimerais vous annoncer quelque chose. C'est déjà affiché, les vacances. Qui aime les vacances? Tout le monde aime les vacances ici, n'est-ce pas? OK. Alors, à partir du 10 juillet, la semaine prochaine, je vais dire comme ça, du 10 juillet au 15 août, Anne et moi, nous serions en vacances. De 10 au 15 août, on ne sera que de retour à partir du 15. Après le 15, je pourrais dire comme ça. Sinon, avant même, parce qu'il y a un mariage à célébrer, il faut venir préparer quelque chose comme ça. Alors, donc, durant mon absence, le collège des anciens vont s'occuper réellement de la gestion continuelle de l'Église, c'est-à-dire les affaires courantes de l'Assemblée, ainsi de suite. Rien ne sera laissé au hasard. Tout a été préparé, tout a été vu, et puis ils continueront de faire cela. Ils vont s'occuper des affaires courantes de l'Église. Et puis, Christian Leclerc va s'occuper de mon intérim derrière moi, dans le sens que, par rapport à la gestion du culte, l'organisation du culte, tout ce qui se passe dedans, quand je suis là, je travaille avec lui déjà, il m'aide dans ce sens-là. Il va s'occuper de ça pendant cette période-là. Et puis David Cadotte aussi va s'occuper continuellement, comme il le fait déjà bien, de l'accueil, mais aussi du suivi des dossiers concernant le redémarrage de la jeunesse dans l'Église. On a commencé un travail sur ça. On veut redémarrer la jeunesse, mais David, avec d'autres personnes, on travaille déjà, mais David va faire le suivi de tout cela. Donc, je vous demande vraiment que pendant cette période, de prier pour David et puis toute l'équipe des anciens qui vont faire ce travail-là, alors que Dieu leur donne la force et la sagesse de continuer comme vous le faites habituellement pour chacun de nous. Et que nous aussi, nous ayons de bonnes vacances, qu'on puisse se reposer comme il le faut. Donc, probablement, on ne partira pas du Québec, on restera chez nous. Alors, donc, priez pour nous et puis priez pour nos frères et sœurs afin qu'ils puissent bien appliquer leur travail et leurs tâches dans l'Assemblée. Merci pour ce que vous faites pour Anne et moi et pour tout le soutien que vous nous donnez chaque fois quand cela est nécessaire. Vous avez été un peuple fidèle et vous continuez d'être fidèle. Et ça fait maintenant 20 ans que je suis ici comme serviteur et je peux bénir Dieu pour cela grâce à votre encouragement et engagement. Ce n'est pas facile, mais tout est bon, on peut avancer ensemble. Amen. Alors, donc, avant ce matin, nous allons regarder, continuer le sujet, notre thème. Avec notre thème, après avoir vu Jésus et moi, soyons saints, Jésus et moi, soyons compatissants, Jésus et moi, soyons humbles. Alors, ce matin, nous allons voir Jésus et moi, soyons confiants. Soyons confiants. Et on a été enseigné sur tous ces points-là. Pourquoi? Il y a cette partie qui s'en vient dessus. Alors, nous sommes rendus déjà au quatrième. Alors, les trois autres parties, il y a deux qui vont être données par notre frère Dénigué et puis un autre qui va être donné par Trevor pour conclure. Alors, donc, pourquoi être confiant? Mais avant de rentrer, je vais vous montrer comment je vais procéder déjà. Vous allez voir ce qu'on va faire. Alors, donc, je suis déjà parti et nous sommes déjà à l'introduction. On démarre. Attachez vos ceintures, ça va? Parce que moi, je suis en tenue d'été, donc ça marche pour moi. Certains vont dire que je suis en pyjama, mais ce n'est pas grave. Alors, donc, ce matin, si nous regardons par rapport à la confiance, nous sommes dans une société où les gens ont plus de méfiance que de confiance. Les gens se méfient des uns des autres. Ils se méfient de leurs collègues au travail. Ils se méfient de leurs patrons. Ils se méfient de leurs femmes et de leurs maris. Ils se méfient de leurs enfants. Ils se méfient de leurs chats et de leurs chiens. Ils se méfient de tout quasiment. Pourquoi tant de méfiance? Se méfie même du gouvernement, parce qu'on a peur qu'il vienne fouiller dans nos sacs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas confiance. Parce que peut-être quelque part on a été blessé, on a été déçu par des circonstances de la vie et les situations de la vie. On a vécu une expérience douloureuse. et qui nous amène à ne plus faire confiance. On a été trahi quand on a fait confiance. Et moi, j'ai habituellement cette nature-là à faire confiance avant que les gens me prouvent que je peux leur faire confiance. Et c'est seulement en Côte d'Ivoire que mon père, pas mon père spirituel, mais quelqu'un qui m'a formé, Gilles Wobak, celui qui m'a dit dans le passé que je vous ai dit, c'est pas quand une femme pleure que c'est grave là. Alors c'est quelqu'un qui est le directeur de publication chrétienne aussi là-bas. Et il me disait, Adama, toi tu as confiance facilement aux gens. Il dit, la confiance c'est pas comme un morceau de gâteau qu'on prend pour donner à quelqu'un. Tu dois laisser la personne te persuader que tu peux lui faire confiance avant de lui faire confiance. Il dit, il n'y a que Dieu qui fait confiance à tout le monde sans attendre qu'on lui prouve qu'il peut nous faire confiance. Et il nous fait confiance en entendant que nous, on prouve notre confiance en lui. Il dit, mais toi, tu agis comme ça, ce n'est pas bon parce que ce n'est pas sain, tu te fais de mal. Effectivement, je me suis fait beaucoup de mal. Puis des fois, ça arrive, je dis, ben, c'est l'autre qui m'a fait le mal, celui qui vient, ce n'est pas lui. Donc pourquoi? Je n'ai pas d'excuse, je n'ai pas de raison de ne pas lui faire confiance. Pas parce que M. Diop m'a fait quelque chose que l'autre fera pareil. Mais on va dire, mais écoute, tu n'apprends pas de tes erreurs. Oui, je veux apprendre de mes erreurs, mais est-ce qu'on doit mettre tout le monde dans le même panier? Il y a aussi cette nuance-là à faire. Mais je me dis, si moi j'ai été honnête, si les gens m'ont trahi, ça les appartient, c'est entre eux et Dieu, ils vont répondre ça. Au moins, Dieu ne dira pas que c'est moi qui les ai trahis. Voilà ma philosophie un peu. Alors, donc, la confiance, qu'est-ce que la confiance? Ou qu'est-ce qu'être confiant? La confiance, c'est un sentiment de sécurité, une définition générale, d'assurance, d'espérance ferme, inspirée par quelqu'un ou en quelque chose. C'est un sentiment de sécurité. C'est une assurance que j'ai à l'égard de quelqu'un. Quand je vois la police, je n'ai pas peur. À moins que si tu roules à 80 km/h, si on dit que c'est zone de 50, tu vas avoir peur. Mais quand je vois la police, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je me sens sécure, c'est un agent de paix. Alors partout où il est, je n'ai pas à avoir peur. Il est même pour mon intérêt, pour me défendre. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Donc, ça me donne la sécurité, je dois avoir confiance. Alors, la confiance aussi, c'est le fait d'être, on peut avoir la confiance en soi-même. Comme on le dit, le fait d'être sûr de soi-même, de ses possibilités, de ses capacités. Mais ce matin, ce n'est pas de ça qu'on veut parler. Ce matin, je vais vous dire, vous devez abandonner cela et faire confiance à Dieu. Parce que je peux être sûr de moi-même si je dois faire un travail que j'ai été formé, j'ai été enseigné, alors je le fais bien. C'est bon, ce n'est pas mauvais d'avoir cette assurance de bien faire le travail. Mais je dois faire confiance à Dieu dans tous les aspects de ma vie et dans toutes les dimensions de ma vie. Et c'est vers ça que je veux vous amener ce matin, que nous arrivons. Alors, qu'est-ce que la foi ou c'est quoi être confiant selon la Bible? Être confiant selon la Bible, quand on regarde dans la définition grecque, la foi est égale aussi confiance. Donc, on trouve que les deux mots sont interchangeables ou fidélité ou fidèle. Alors, la confiance, on dit ici, c'est la foi. C'est une adhésion inébranlable de l'homme à la parole et à la volonté divine, et cela malgré l'épreuve. Une adhésion inébranlable. La confiance, c'est une adhésion inébranlable. Il y a des gens qui ont adhéré dans des partis politiques. Pour eux, c'est important, n'est-ce pas? Et ils croient ça dur comme du fer. Mais vous et moi, nous croyons à la parole de Dieu. Alors, si nous voulons faire confiance en Dieu, c'est là que nous devons avoir une adhésion, une foi, une confiance qui est inébranlable. Et cela, malgré l'épreuve. Pourquoi on dit cela? Parce qu'il arrive que quand nous sommes dans des situations, je ne dis pas, on a dit, j'ai été témoin de ça plusieurs fois, dans mon travail pastoral, j'ai entendu plusieurs personnes, Dieu, il est où? Ça fait 10 ans que je traîne une maladie. Je le prie, je le demande. Vous me dites de lui faire confiance? Je lui fais confiance, mais il ne répond pas. Le ciel semble fermé par un airain. Une porte en airain. Et quand je parle, André, ça fait un ballon de ping-pong, ça me revient. Ton Dieu, là, tu me dis de lui faire confiance. Il est où? Il ne répond pas. Alors, ton Dieu, là, tu dis de lui faire confiance? Mais Adam Adiko, tu es pasteur depuis plus de 30 ans, tu es dedans. Mais ta femme et toi, vous n'avez pas d'enfant. Tu as prié pour les autres, ils ont eu des enfants. Et toi, tu n'en as pas. Ce Dieu ne te répond pas, tu es son serviteur. Pourquoi il ne répond pas à ta prière? Alors tu continues de faire confiance à un Dieu comme ça? Tu as prié pendant 32 ans pour le salut de tes parents. Ton papa est mort sans connaître Dieu, malgré que tu as prêché l'évangile à lui et à toute la famille. Il n'a pas connu Dieu. Il est mort. Il est parti dans le séjour des morts. Probablement, tu ne le verras plus jamais. Ce Dieu-là, puis tu continues de le servir. Tu as foi en lui. Tu continues de lui faire confiance. Et tu es malade ou quoi? Qui d'entre nous n'a jamais entendu une parole comme ça? On a tous entendu ça, n'est-ce pas? Mais vous savez, moi j'ai dit à ma femme, quand ce que je vous dis par rapport aux enfants, vous savez, c'est important pour une femme d'avoir des enfants. Un homme aussi d'avoir des enfants, un héritier. Parce que tu te dis, quand nous on va vieillir, c'est qui va prendre soin de nous? Quand ils vont nous maltraiter dans les maisons de passage, là, des personnes âgées, là, qui sera là pour nous défendre? C'est qui va souligner notre anniversaire? C'est des questions qui viennent, c'est normal. Vous savez, j'ai dit à ma femme, on a fait tous les tests, on dit que tout va bien, mais on ne peut pas avoir d'enfants. Mais Dieu, qui s'est chargé de nous, de ne pas nous donner des enfants, s'occupera de nous quand on sera vieux. Amen. Chez nous, il y a un proverbe qui dit, si Dieu a eu le courage de créer un bœuf, une vache sans queue, c'est lui qui va se charger de lui chasser les mouches. Il va se charger de chasser ses mouches à ce bœuf-là. Parce qu'il a besoin de sa queue pour chasser les mouches. Tu l'as créé, il n'a pas. Alors, tu t'arrangeras pour qu'il puisse chasser ses mouches. Amen. Alors, je crois en ce Dieu-là. C'est pourquoi j'ai confiance en lui. Ma confiance en lui et notre confiance en Dieu ne doit pas dépendre des circonstances dans lesquelles nous traversons, ne doit pas dépendre de ce que nous avons ou de ce que nous n'avons pas, ou de ce que nous désirons avoir, ou de ce que les circonstances ne changent pas. Mais ma confiance en Dieu est de dire Dieu est bon par nature, même si je ne comprends pas ce qui m'arrive, il demeure bon et il est digne de confiance. Amen. C'est ça mon point ce matin. Pouvons-nous le faire confiance? Alors, c'est quoi la confiance? Selon la Bible, il dit, or, la confiance, dans d'autres textes, on va dire, or, la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est aussi le fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. On nous dit, les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la confiance ou la foi, la douceur, la maîtrise de soi, et la loi n'est pas contre ces choses. Et encore, la confiance ou la foi, c'est le casque du salut. C'est une arme. Un frère a dit une fois que quand on est né de nouveau, la première des choses que Dieu fait après notre naissance, il nous conduit dans son magasin des armes. Il faut aller t'équiper parce que tu as une bataille à faire avec le diable. Il va falloir t'équiper parce que tu vas avoir besoin de te battre. Alors donc, la foi où la confiance est le bouclier que Dieu nous donne. Et ces armes-là, c'est pour pouvoir nous battre. Et comment on peut utiliser cela? C'est dans les difficultés qu'on va comprendre la maturité d'un chrétien ou si le chrétien n'est pas mature. Comment il réagit dans des circonstances et des situations? Comment il utilise les armes de Dieu? Comment il utilise la vérité de Dieu face aux mensonges? Comment il utilise réellement le bouclier de la foi qui est la confiance, quand l'ennemi viendra attaquer sa confiance en disant, ton Dieu, là, il n'est pas bon. Ah, ton Dieu ne t'a pas donné d'enfant, pour cela, il n'est pas bon. Ton Dieu n'a pas donné le travail que tu voulais. Depuis plusieurs années, tu es célibataire dans la maison, là, tout le monde se marie sauf toi. Alors, qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Il ne t'écoute pas ou quoi? Alors, tu vas dire à ce diable-là, tu vas dire, moi, mon Dieu a un temps pour toutes choses. Amen. On peut dire ensemble, mon Dieu a un temps pour? C'est ça. Chaque fois, pense ça. Mon Dieu a un temps pour toute chose. Ce n'est pas fait ce que je veux, mais il a un temps pour moi. Alors, par rapport à cela, une petite conclusion. Avoir confiance en Dieu, c'est avoir foi en Dieu. Croire en sa parole, en ses promesses et prendre Dieu au mot. C'est prendre Dieu au mot. Il y a un petit enfant missionnaire qui était avec son papa en Afrique. C'est un exemple que je vous donne par rapport à cela. Et l'enfant était sous un arbre. J'ai déjà dit ça il y a longtemps. Et il y avait un gros serpent enroulé sur un arbre au-dessus de sa tête. Il jouait et puis son papa était à la porte. Il voit l'enfant. Mais l'enfant, lui, il ne sait pas qu'il y a un gros serpent au-dessus de sa tête. Puis son papa crie, Philippe, il dit, oui, papa, il dit, couche-toi et rampe jusqu'à moi. Philippe se couche, il rampe jusqu'à son papa. Il se lève et son papa lui dit, regarde derrière toi. Ça, c'est un enfant qui croit à la parole de son père. Il a confiance. Il n'a pas mis son papa, la parole de son papa en doute. Il n'a pas dit, why, pourquoi, papa? Oh, je ne, ça ne me tente pas de me coucher, moi. Il n'a pas dit ça. Il s'est couché automatiquement et il a rampé jusqu'à son père. Alors, un enfant de Dieu qui a confiance en son père, qui a confiance en Dieu, c'est quelqu'un qui prend Dieu au mot et qui ne doute jamais de la parole de Dieu. Et l'Écriture nous dit, dans Romains 4, qu'Abraham ne douta point par incrédulité à la parole de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi que ce que Dieu promet, il va le faire. Amen. Alors, il a eu confiance à la parole de Dieu. Ce matin, comment va ta confiance avec Dieu? Ta confiance vacille, ta confiance, elle est branlante. Comment tu regardes ta confiance avec Dieu? Des fois, on dit Dieu, oh, je n'ai pas confiance en Dieu. Mais moi, je tourne la question, est-ce que Dieu peut te faire confiance ce matin à toi? La question, posons-nous la question, est-ce que Dieu peut nous faire confiance en nous? Nous autres là, quand on a faim, on change. Quand on est malade, on change. Quand on a soif, on change. Quand on a des problèmes au travail, on change. Est-ce que Dieu peut nous faire confiance? Est-ce qu'il devrait nous faire confiance? Alors donc, au lieu de dire que oui, Dieu, là, il n'est pas fiable, il ne m'a pas donné, je ne peux plus lui faire confiance, mais pose-toi la question, est-ce que toi, tu as la place où Dieu veut que tu sois? C'est ce que nous devons nous poser, tout un chacun de nous. Voilà ce que quelqu'un a dit pour montrer l'importance de la confiance. Ça, c'est Stephen Covey. Stephen Covey est un grand homme d'affaires qui a écrit beaucoup de livres sur le leadership, mais aussi sur comment donner des conseils aux entreprises. Il a dit ceci pour montrer l'importance de l'impact d'une confiance. Il dit, il existe un facteur qui est commun aux individus, aux équipes, aux familles, aux organisations, aux nations, aux économies et à toutes les cultures du monde. La confiance. En la supprimant, on peut détruire le gouvernement le plus puissant, l'entreprise la plus prospère, l'économie la plus florissante, l'amitié la plus solide et l'amour la plus profonde. En revanche, si elle est approfondie, exploitée au maximum, la confiance a le pouvoir de créer une réussite et une prospérité sans pareil dans tous les aspects de la vie. Établir un climat de confiance, le conserver ou le restaurer est la clé du succès pour toute entreprise. Si cela est vrai pour les hommes d'affaires, si cela est vrai dans la société, alors cela aussi est vrai dans la maison de Dieu. Amen. Parce que ce qu'il dit là, il n'a pas inventé. Il ne fait que dire et de confirmer ce que la parole de Dieu dit. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu n'as pas la confiance de quelqu'un, tu ne peux rien faire. Si je n'ai pas ta confiance, je ne peux rien faire. Si les anciens du jour au lendemain n'ont plus la confiance du peuple, si je n'ai pas la confiance de personne d'entre vous, je ne peux plus continuer de travailler ici. Il va falloir changer de lieu. Parce que la confiance, comme Michel Penot a l'habitude de le dire, et j'aime ça, Michel, c'est le droit que quelqu'un te donne pour entrer dans sa vie. Hein, Michel? C'est le droit, c'est le billet que la personne te tend. Un passeport, hein? Pour que tu puisses entrer dans sa vie. Et si tu n'as pas confiance, si la personne n'a pas confiance en toi, tu ne peux rien. Quels que soient tes conseils, quelle que soit ta grandeur, ta taille, tu ne peux rien faire. Parce qu'elle ne veut pas de toi. Donc, tasse-toi. C'est pourquoi, à l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, les anciens, quand nous travaillons, nous disons, quand il y a un frère ou une sœur qui a un problème, on veut chercher à savoir qui a le passeport pour entrer chez lui. À qui ce frère ou cette sœur fait confiance? Parce qu'on ne veut pas aller irriter la personne. On ne veut pas aller choquer la personne. On veut aller donner un soin à la personne. On veut récupérer la personne. On veut aider la personne. Donc, on veut envoyer la bonne personne appropriée qui peut aider le frère ou la sœur à grandir. Donc, ça prend la confiance. Amen. L'importance de la confiance. Est-il important d'avoir confiance en Dieu? Oui. La réponse est évidente, oui. Dieu, dans la parole de Dieu, dans sa parole, il a plusieurs fois repris les disciples de leur manque de confiance. Il dit, vous avez peu de foi. Deux fois, il les reprend quand il était sur la mer. Il y avait la tempête et l'autre fois, il marchait. Et puis les disciples avaient peur et Jésus les reprend. Pourquoi vous avez si peu de foi? Une autre fois, il les parle quand il les parlait de se méfier du pain de levain, du levain des pharisiens. Et le peuple pensait, et les disciples pensaient qu'il leur parlait. Il les reprochait de ne pas avoir apporté assez de pain. Et ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Mais là aussi, il leur dit, homme de peu de foi. Vous avez vu des miracles que j'ai faits. Pourquoi il veut vous reprocher parce que vous n'avez pas apporté de pain? Quand il y avait un enfant qui était avec 5 pains et 5 poissons ou 3 poissons, il a fait une multiplication. Puis vous avez tous mangé, puis il y a eu 12 corbeilles qui sont restées. Pourquoi vous allez, je vais vous reprendre pour ça? Peu de confiance. Et Jésus a été non seulement surpris par le manque de confiance de son peuple à Nazareth, et ils n'ont pas eu confiance en lui. On lui demandait des miracles malgré tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a enseigné. Les gens voulaient avoir des miracles. Et à cause de leur incrédulité, Jésus n'a pas fait de miracles dans cette ville-là. Il dit, parce que les miracles qui ont été faits chez vous, si cela avait été fait ailleurs, les gens se repentiraient. Si cela avait été fait à Sodome et Gomorre, ils se seraient repentis. Mais c'est pourquoi Sodome et Gomorre se lèveront contre vous le jour du jugement et vous condamnera. C'est ce que Jésus dit. L'incrédulité. Jésus a été épaté par l'incrédulité et surpris par l'incrédulité de certaines personnes. Mais il a été épaté aussi par la foi, par la confiance de d'autres personnes, le centenier. Le centenier est un homme romain, un serviteur romain, un grand homme. Et puis, son serviteur est malade. Il va voir Jésus. Il dit, mon serviteur est malade. J'aimerais que tu le guérisses. Jésus dit, allons-y, j'irai chez toi et je guérirai ton serviteur. Il dit, non. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis chef de l'armée. J'ordonne et les gens exécutent. Je dis à un, va, il va. Je dis à l'autre, viens, il vient. Toi, tu es Dieu. Ordonne seulement. Et Jésus a dit que dans tout Israël, il n'a pas trouvé une si aussi grande foi comme celui de cet homme-là. Cet homme-là, c'est un Romain, ce n'est même pas un Juif. Il n'est même pas d'arrière-plan hébreu. Il n'a aucune connaissance des lois et de la science de Dieu lui-même, à part des faux dieux qu'ils adorent. Mais cependant, cet homme a déployé une confiance totale en Dieu, au point que Jésus a été émerveillé et épaté par cela. Ma question ce matin, est-ce que nous avons une confiance qui épate Jésus-Christ, qui le surprend agréablement? Quelles sont les circonstances de notre vie où nous manquons de déployer la confiance? Où nous doutons encore de la capacité de Dieu d'intervenir? Où nous pensons que c'est trop tard pour nous, Dieu il ne pourra plus rien faire? Donc, tout est possible à Dieu si on lui fait confiance. Amen. Pourquoi il est important d'avoir confiance en Dieu? Nous pouvons le dire. Il est important pour nous d'avoir confiance en Dieu parce que la Bible nous dit que sans la confiance, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu ou de plaire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne veut pas plaire à Dieu? On veut tous plaire à Dieu? On veut tous plaire à quelqu'un? Dans la vie, nous travaillons d'une manière à chercher à plaire à quelqu'un. Quel qu'en soit ce que nous dirons, on veut plaire aux gens. Mais la Bible dit, si tu veux t'approcher de Dieu, si tu n'as pas la confiance, si tu n'as pas la foi en lui, si tu n'as pas confiance en lui, il ne peut pas agréer tes prières. Il ne peut pas agréer tes prières. Il ne peut pas répondre à ta prière. Donc, ça prend la confiance. Pourquoi il est important d'avoir la confiance? Parce que pour être sauvé. Et comme je le dis, foi et confiance sont interchangeables. C'est la même chose. Pour être sauvé, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la confiance. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. si tu n'as pas confiance en Dieu, si tu n'as pas confiance à sa parole, si tu n'as pas confiance que Christ est mort à la croix, si tu n'as pas confiance au message de Christ, si tu n'as pas confiance que Christ est ressuscité, que Christ est allé au ciel, que Christ revient chercher ceux qui ont cru en lui, si tu n'as pas confiance à cette parole que Christ a propagée, a prêchée, l'évangile qu'il a donné, si tu n'as pas confiance à ça, il n'y a pas de salut pour toi. Tu ne peux en aucun cas être sauvé. Il n'y a pas d'autre possibilité. Acte 4, 12 nous dit quoi? Car il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Aucun nom n'a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Alors si tu n'as pas confiance à ce nom-là, mais tu es voué à périr, il n'y a plus de solution pour toi. C'est pourquoi nous, à l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, on veut faire confiance à ce Dieu-là qui sauve encore. Amen. Et sans la foi, alors et la confiance, c'est nécessaire pour vivre, pour la marche chrétienne. Il dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Habakkouk nous le dit. Il voyait qu'il n'allait pas avoir de fruits dans les champs et qu'il va manquer toutes sortes de récoltes et qu'il va avoir une sécheresse, un jugement de Dieu. Il dit, mais malgré tout cela, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, car le juste vivra par la foi. Malgré les circonstances de qui l'entourent, malgré le jugement qu'il voit venir, malgré tout ce qui va se passer, Habakkouk dit, moi je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Pourquoi? Parce que le juste vivra par la foi. Le juste, il marche par la foi, par la confiance en Dieu, inébranlable. Ce n'est pas nos petits bobos là, nos petites maladies là, qui doivent nous empêcher de fonctionner. Nous devons avoir confiance en Dieu pour pouvoir éteindre les mensonges du diable. Parce que je vous ai dit tantôt que la confiance est un bouclier de Dieu. C'est le bouclier de la foi. Alors si nous l'avons, c'est pour pouvoir éteindre les traits enflammés du diable. C'est ce que l'Écriture nous dit. Pour surmonter les difficultés. On a besoin de la confiance pour surmonter les difficultés. Dans les jours durs, dans les moments compliqués, ça prend la confiance pour surmonter les difficultés. Si on n'a pas ça, on ne peut pas. Ça prend cela. Alors, il y a un père qui disait qu'il était parti voir Jésus-Christ parce que son enfant était malade. Et puis, il lui demande de le guérir. Et Jésus parle avec lui. Et puis, il dit, Jésus, si tu peux. Jésus dit, si je peux. Tout est possible à celui qui croit. Et il dit, mais viens au secours de mon incrédulité. Ce matin, peut-être que tu manques de foi, que nous manquons de foi quelque part. Nous pouvons dire, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. J'ai besoin que tu viennes m'aider. Viens, augmente ma foi, augmente ma confiance pour que je puisse être ce que tu veux que je sois. Amen. Alors, parce que nous voulons guérir, nous avons besoin de la confiance pour obtenir la guérison, pour obtenir le pardon des péchés, pour déplacer les montagnes. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne veut pas déplacer des montagnes? On veut tous déplacer des montagnes. Quand on dit que la foi déplace les montagnes, les gens, même certains, sont devenus chrétiens parce qu'eux veulent expérimenter ça. Ils viennent à l'église, ils disent, donc, on va déplacer les montagnes dimanche matin. Je vous dis ce que je vous dis là, c'est vrai là. À l'Afrique, en Côte d'Ivoire, quand on était né nouvellement dans le Seigneur, on était des chrétiens zélés. Et puis, il y a un musulman qui est converti, qui est venu, il a lu la Bible longtemps, il dit, paraît-il que la Bible dit qu'on peut déplacer les montagnes. C'est quand est-ce qu'on va déplacer les montagnes ce soir, de cette semaine? On dit, non, on ne déplace pas les montagnes ici. Hein. C'est Dieu qui déplace les montagnes. On a foi à celui qui déplace les montagnes. Amen. Alors, avoir confiance en Dieu, c'est avoir confiance en un Dieu qui peut faire des miracles. Et ta confiance en Dieu peut déplacer des montagnes, peut rendre les situations impossibles possibles. C'est ça que ça voudrait dire. Sinon, c'est pas, va essayer de déplacer le mont Everest ou bien le mont Saint-Bruno. Essaye de soulever si tu es capable. C'est pas ça qu'il veut dire. C'est une métaphore qu'il parle. Alors, pour aider les autres. Nous avons besoin de la confiance pour pouvoir aider les autres. C'est important. Pourquoi? Si je n'ai pas confiance, je ne peux pas aider les autres. Si les autres n'ont pas confiance en moi, je ne peux pas les aider non plus. Alors, quand on travaille ensemble, ça prend une confiance. Dans la collaboration dans l'église, ça prend une confiance. Si les anciens n'ont plus confiance les uns aux autres, je vous assure que l'église va sauter. C'est une division. Parce que s'il faut contrôler tout ce que les autres font, S'il faut que tout ce que les autres font passe par toi avant que ça soit fait, il va avoir un problème. Parce que ça veut dire qu'il y a un problème de manque de confiance. Je ne dis pas si tu as dans ton département, tu as confié une responsabilité que tu veux bien surveiller. Mais si tu veux surveiller, c'est puis surveiller celui des autres et passer tout le temps pour contrôler si les autres ont bien fait ou n'ont pas bien fait, il y a un problème. Problème de confiance. Si on ne peut même pas déplacer un meuble dans la maison de Dieu, sans que tu ailles asseoir tout le conseil de l'église pour dire, est-ce qu'on peut déplacer ce meuble? Voyons. À quoi sert de donner, de déléguer des postes, des responsabilités aux gens, si on ne leur donne pas l'autorité qui va avec? Dans ce cas, ben, levez-vous, faites le reste. On n'a pas besoin de déléguer, donner du travail aux gens si on ne peut pas leur donner le pouvoir qui va avec. Ça ne sert à rien. Donc, ça prend la confiance pour déléguer une tâche aux gens, pour encourager les frères dans l'Église, pour les laisser travailler dans la liberté et croire en eux pour pouvoir les aider à croître dans la foi. Et ici, les gens ont eu confiance. C'est un paralytique. Il est couché. Il ne peut pas se lever. Il ne peut rien faire. Et ses amis, il avait, heureusement, lui, il avait 4 amis. Ils ont décidé de le soulever parce qu'ils ont appris que Jésus venait dans leur bourgade, dans leur village. Ils sont allés, ils ont soulevé le paralytique. Ils ont enlevé le toit de la maison et puis l'ont fait entrer. J'ai dit, le paralytique, il a foi vraiment à ses amis. Hein? Il a vraiment confiance. Déjà, toi-même, tu es paralysé. Si on te soulève, on t'amène en haut, là, c'est pour t'achever s'il t'échappe. Mais il a accepté et les gens l'ont descendu devant le Seigneur. Et on dit, Jésus, regardant leur foi, c'est coupé ici, là. Je n'ai plus le son, là. Je n'ai plus l'image ici, là. Alors, donc, on dit, Jésus regarda leur foi et il dit, ta foi t'a sauvé. Ces gens-là, ils ont apporté le monsieur devant le Seigneur. Nous aussi, parce qu'ils avaient confiance qu'eux, ils ne peuvent pas le guérir. Mais celui qui est dans la maison-là, s'il voit ce frère-là, s'il voit notre ami, il va le guérir, il peut le guérir. Et ils l'ont entré et il a obtenu la guérison. Amen. Il a obtenu la miséricorde et il a obtenu guérison. Et c'est ça qu'on veut vous dire. La confiance aide les autres à entrer dans les grâces de Dieu. Quand on a confiance, on peut faire beaucoup. Je pense que tu es revenu en arrière avec mon affaire. Il va falloir que j'avance moi-même. Hein? Ok, donc tu ne me suivais pas alors? Ok. Je comprends que tu ne me suivais pas. Alors, donc, et on continue dans ce point, c'est-à-dire que le paralytique, je peux regarder ça ici aussi dans mes notes, le paralytique a été guéri. Et comment nous pouvons faire cela, en général, dans notre prière quand on a confiance en Dieu? Nous pouvons porter nos frères et sœurs qui ne sont plus capables à cause d'une situation, à cause d'un problème qui a paralysé leur vie, qui les empêche, qui a enlevé tout goût de prier, qui ne sont même plus capables de venir dans l'église ou d'aller même chercher l'aide des frères. Mais si nous partons les voir, nous pouvons les porter par nos prières devant le Seigneur, par la foi et la confiance qu'on a, et Dieu peut agir en leur faveur. Amen. Et c'est ça. Nous pouvons faire cela. Alors donc, je vais courir avec ma... Bon, vive l'Internet, vive les PowerPoint. Avant, on n'avait pas ce problème quand on n'avait pas ça. Alors, maintenant, que devons-nous faire pour cultiver une confiance? Nous avons vu que ce que c'est que la confiance. Nous avons vu ce que la confiance est capable de faire. Si nous avons confiance en Dieu. Nous avons vu que si nous n'avons pas confiance en Dieu, on ne peut rien obtenir. Alors si nous avons confiance en Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et maintenant, comment on peut cultiver ça? Oui, c'est bon, Adama, tu me dis avoir confiance là. J'ai compris. J'ai compris là, assez. Passe à un autre point. C'est quoi, comment moi je peux faire pour cultiver cette relation de confiance avec Dieu? C'est ça qu'on est en train de penser là. Dans notre relation avec Dieu, on va regarder à la vie de Jésus, s'il vous plaît. Dans le psaume 16, versets 8 à 11, il nous dit ceci. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, et je ne chancelle pas. Car aussi, mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps reposera ou repose, parce que dans d'autres versions, j'ai lu tellement de versions avant de venir ici, repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Verset 11, tu me feras connaître le sentier de la vie et il y a d'abondance de joie devant ta face, tes délices éternels à ta droite. Ici, c'est David qui parle. Et ça, c'est un psaume messianique et qui s'adresse au Messie à venir. Mais David, dans sa prière et dans ses combats, faisait cette prière à Dieu. Et puis, au travers de ça, c'est comme s'il prophétisait par rapport à l'avenir, des choses qui vont arriver. Parce que si on veut dire que tu ne permettras pas que ton serviteur connaisse la mort, ou que tu ne permettras pas que ton serviteur ou ton bien-aimé connaisse ou voit la corruption, c'est-à-dire mourir et pourrir dans le sol. Mais David est mort il y a longtemps. Hein? Donc si c'est David, on va dire que ça ne marche pas là. Mais David, en ce moment, selon certaines traductions, c'est-à-dire que David parlait de lui-même, il voulait se rassurer qu'il va avoir de la postérité, qu'il va pérenniser le trône derrière lui. Alors, et dans la deuxième application ici, ça s'applique directement sur le Seigneur lui-même. Parce que dans Acte, il est repris par Pierre, et puis par l'apôtre Paul aussi, il est repris. Que le Fils de Dieu, le Messie, le Oint, ne connaîtra pas la corruption, c'est-à-dire qu'il va mourir, mais il ne connaîtra pas la pourriture. Il ne restera pas dans le tombeau. Donc, Jésus a démontré par la croix et par sa mort à la croix qu'il a confiance à Dieu. Par sa mort à la croix, il a démontré sa confiance en Dieu. Si nous voulons savoir comment faire confiance en Dieu, c'est de faire confiance à la volonté et la parole de Dieu. Jésus a fait confiance à cette parole de Dieu que lui, même s'il meurt, il ne restera pas dans le tombeau. Et sur la croix, il avait cette pleine confiance. Il ne doutait pas en aucun moment. Effectivement, il a été ressuscité. Amen. Il a démontré sa confiance en Dieu en croyant à la parole de Dieu, en croyant au plan de Dieu, en croyant à la volonté de Dieu. Et il est allé à la croix, il est mort, il est revenu à la vie. Nous aussi, nous pouvons penser comme ça. Dieu, il ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fait. Deuxièmement, Jésus a démontré sa confiance en Dieu par la prière. Dans la prière, il est tout le temps allé devant son Père. Il a prié. S'il doutait de lui, il ne se tiendrait pas devant lui. Et la Bible nous a dit tantôt que hors sans la confiance ou sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors Jésus lui-même entretenait sa relation personnelle avec Dieu par la prière. C'est parce qu'il avait confiance à son Père qu'il priait continuellement. Et il a démontré cela devant le tombeau de Lazare. Quand Lazare est décédé, on a appelé Jésus de venir parce qu'il était malade. Mais Jésus arrive, pour les gens c'était trop tard. Mais avec celui qui est le créateur de Dieu, rien n'est trop tard. Parce que les circonstances peuvent passer, il peut les retirer, les amener dans son temps à lui et exécuter ce qu'il veut dedans. Et il laisse le temps partir. Amen. Il n'y a que le diable seul qui ne peut pas jouer avec le temps. Lui, il est dans le temps. Mais Dieu, lui, aucun moment, il contrôle l'horloge, il fait ce qu'il veut dedans. Alors, c'est ce que Dieu va dire. Ils vont ouvrir le tombeau. Et puis, dans cette parole-là, Jésus va dire, dans cet endroit-là, Jésus va dire, « Amat, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as confiance, tu verras la gloire de Dieu. » Et puis, ils vont ouvrir le tombeau et Jésus va prier. Il dit, « Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Ça, c'est une confiance quand tu vas devant un père que tu sais que, avant même que tu ouvres la bouche, tu sais que tu es déjà exaucé. C'est toute une confiance. Donc, il a démontré sa confiance en son père par la prière. Il a démontré sa conscience, sa confiance en son Père aussi par la connaissance qu'il avait de son Père, dans sa parole. Il avait une bonne connaissance de lui. Et la Bible nous dit que Jésus a été transporté. Dans Matthieu 4, 4, quand tu lis tout Matthieu chapitre 4, on nous montre la tentation où Jésus va passer 40 jours et 40 nuits dans le désert pour être tenté par le diable. Et pendant cette période de tentation-là, Jésus va être soumis à une dure, rude épreuve. Alors, au travers de ça, il va sortir triomphant. Mais comment? En s'appuyant sur la parole de Dieu. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Et chaque fois quand le diable lui disait telle chose, il répliquait avec une autre. Si tu es fils de Dieu, demande à ces pierres de devenir du pain et dis, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Si tu es fils de Dieu, laisse-toi tomber parce qu'il est dit que les anges te tiendront. Il dit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Ah, si tu es fils de Dieu, il lui montre tout le royaume des cieux et de la terre. Il monte sur une montagne, il lui montre tout et puis il lui dit, adore-moi et je te donnerai tout cela. Et Jésus dit, il est écrit, tu n'adoreras l'Éternel ton Dieu seul. Quelle connaissance qu'il avait de son Dieu, de son Père. Et il avait confiance en lui, il avait confiance à ses paroles. Il a mis sa confiance en tout cela. Nous, est-ce que nous avons aussi confiance comme ça? Si nous voulons que Jésus soit notre Seigneur, si nous voulons réellement bâtir une relation de confiance entre lui et nous, voilà ce que nous devons faire dans ce cas-là. C'est ce que Jésus a fait. Nous devons établir cette relation de confiance si nous voulons le faire. Alors ça commence réellement, premièrement, par la foi que nous devons avoir en lui, cette confiance. Conserver notre relation avec lui, c'est commencer à marcher et à cultiver une vie de prière entre lui et nous. Si je n'ai pas une vie de prière entre Jésus et moi, ça ne marchera pas. Beaucoup de chrétiens veulent avoir une vie florissante. Ils veulent avoir une vie exaltante, une vie pleine de miracles et de bénédictions de Dieu, mais ils ne veulent pas payer le prix pour l'avoir. Si nous ne payons pas le prix, on ne peut pas l'obtenir. Nous devons entrer dans la prière. Je vais avoir confiance en Dieu. Je ne peux pas venir à Dieu quand ça fait mes affaires, quand ça ne fait pas mes affaires, bye bye. Mais si je viens à Dieu, je viens réellement parce que je veux réellement lui faire confiance et je viens dans la prière et je développe cela. Et pour conserver réellement notre relation, alors nous devons, comme j'ai dit tout à l'heure, excusez-moi, oui, nous devons cultiver une relation de confiance avec lui dans la prière. Alors, si nous voudrons aussi, nous devons faire confiance en Dieu par rapport à nos prochains. On a vu, excusez-moi, je dois revenir sur un point ici, là. Oui, établir une relation de confiance. Oui, faire confiance, oui. Et conserver la relation avec lui, nous devons cultiver la prière. Et puis, ça c'est un point qui est très important pour nous et Dieu. Et maintenant, si entre nous, comme frères et sœurs, si nous voudrons avoir une bonne relation de confiance, des fois on a parlé entre nous et Jésus, c'est bien. Mais entre nous et frères, comme frères et sœurs, des fois la confiance est brisée. On n'a plus cette confiance. On a été offusqué par quelqu'un. On a été blessé parce que quelqu'un a dit une vérité qui ne fait pas notre affaire. On n'aurait pas voulu qu'il le dise comme ça. On aurait voulu qu'il porte des gants blancs jusqu'au cou pour pouvoir vous parler. Puis la personne, malheureusement, n'a pas pensé. Il n'est pas dans votre tête pour savoir ce que vous pensez. Il a agi avec les connaissances de bord et de base qu'il a. Mais vous l'en voulez. Mais comment rétablir une relation avec une telle personne? La Bible nous demande, premièrement, de pouvoir demander pardon. On doit confesser nos péchés pour pouvoir bâtir une relation avec nos frères et sœurs et d'être gracieux aussi envers eux. S'il n'y a pas ça, ça ne marche pas. On doit être capable de se pardonner mutuellement. Et la vie chrétienne est un pardon continu. Et l'apôtre Pierre demande combien de fois je dois pardonner et le Seigneur répond combien de fois? Vous voyez? Alors, 7 fois, 70 fois, donc c'est beaucoup ça. Ça voudrait dire infiniment, on doit continuellement pardonner les uns aux autres, malgré ce que les uns et les autres peuvent faire pour nous blesser. Si nous ne pardonnons pas, il n'y aura pas de relation de confiance entre nous. Si nous gardons rancune, notre prière ne dépassera pas le plafond parce que Dieu dit, si tu ne pardonnes pas à ton prochain, mais comment tu peux dire que tu l'aimes lui? Donc, ta prière ne dépassera pas le plafond. En conclusion, pour bâtir une relation de confiance entre nous et Dieu, si nous voulons bâtir, premièrement, nous devons faire confiance au plan et à la volonté de Dieu. Deuxièmement, avoir une relation continue. Continue avec lui par une vie de prière. Et troisièmement, avoir une bonne connaissance de notre Dieu et ne servir que lui seul. Jésus n'a servi aucun autre Dieu. Il ne s'est pas prosterné devant Satan. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance à son Père. Et si nous regardons dans la Bible, des choses que je ne pourrais pas dire que je laisse passer, quand nous regardons Hébreux 11, c'est le panthéon des hommes de Dieu, des hommes qui ont fait confiance à Dieu. Le panthéon. Si vous prenez le Hébreux 11, ça résume tous les hommes de Dieu dans la Bible et les femmes de Dieu qui ont donné leur vie, qui ont fait pleinement confiance à Dieu et qui ont fait tout ce que Dieu leur a demandé. À quel moment ils ont démontré cette confiance-là? Dans des temps de difficulté. La plupart, quand on parle de Josué, face à Jéricho. On parle de Moïse, il quitte l'Égypte. Quand on parle de Daniel dans la fosse au lion, alors ils étaient tout le temps dans des circonstances difficiles qu'ils ont démontré qu'ils ont la foi. À quel moment devons-nous démontrer que nous avons la foi? Dans les temps difficiles. Et c'est là qu'il faut tenir ferme. C'est le moment où on peut savoir. Comment on peut savoir qu'une maison est solide? Quand il y a la pluie, des pluies diluviennes, des intempéries, des tornades. Alors la maison qui peut passer au travers d'une tornade, on dit cette maison est solide. Amen. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, soyons confiants. On ne peut l'obtenir autrement qu'en faisant ces trois choses. Si tu n'as pas ça dans ta vie, oublie. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous as donné. Tu es le Dieu de confiance qui mérite toute confiance. Nous n'avons pas de raison de ne pas te faire confiance. Mais toi, tu as toutes les raisons pour ne pas nous faire confiance. Et cependant, tu nous fais confiance. Comme tu as fait confiance à Pierre quand il t'avait renié. Et tu aurais pu lui dire, je ne peux plus te faire confiance. Mais cependant, tu lui as confié les brebis, le troupeau, le plus cher que tu as racheté par le prix de ton sang, ton église. Tu lui as dit, paie mes troupeaux, paie mes brebis quand tu reviendras. Quelle confiance que tu as en nous, malgré nos lacunes et nos faiblesses. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner toutes nos fautes contre toi, mais de nous aider à marcher pour toi et de faire ta volonté. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous accompagne. Merci beaucoup.